Et nous allons donc continuer sur ce sujet de la prospérité. Donc on va regarder 3 Jean 2, c'est un peu notre texte de référence. On va revoir ce texte ensemble, hein, juste avant l'Apocalypse, je vous rappelle, la troisième épître de Jean, verset 2. 3 Jean 2. Avant, oui, Agile.
N'imbere y'uwitwa Yuda mu ijambo ry'Imana, icete cya gatatu cya Yohana umurongo wa kabiri.
Et il est dit, donc bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Ngomukundwa ndagusengera ngo umeregwe neza muri byose, uhora uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza.
Et nous avons vu que ce verbe prospérer, ça veut dire en faire un excellent voyage.
Iri jambo twarabonye kumeregwa neza ni kugira urugendo rwiza.
Et évidemment, par rapport à cela, nous savons que faire un bon voyage implique une mentalité d'abord transformée. Parce que dans cette vie, c'est ce que Dieu veut. Et tu peux être sauvé, tu peux aller au ciel.
En route
vers le ciel, parce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel.
Mais
dans cette vie, tu peux vivre vraiment une vie de qualité différente que celle des inconvertis. Tu peux vivre quelque chose de supérieur.
Mais
ça ne se passera pas par hasard. Et dans chaque domaine de notre vie, Dieu a des principes. Ce sont des principes divins que nous devons connaître et pratiquer. Alors, nous avons largement avancé ce thème. Et on a vu, on parle des finances. Et on a vu que c'est un principe général de la parole de Dieu. C'est qu'il ne faut pas rechercher les choses, il ne faut pas rechercher la guérison. Il
ne
faut pas rechercher l'argent. Il
ne
faut pas rechercher d'une manière générale les choses, les bénédictions telles quelles. Mais il faut chercher celui qui est la source de toutes choses. Chercher sa sagesse et son intelligence. Et le reste est une conséquence. Et c'est là où justement beaucoup de chrétiens se trompent. Ils recherchent les choses, ils recherchent les bénédictions. Et dans cette église, nous enseignons que Dieu est un Dieu de bénédiction parce que c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Mais nous enseignons les priorités. La priorité, ce n'est pas la bénédiction. La priorité, c'est ton Seigneur. Et c'est d'apprendre à puiser dans les richesses de Dieu. Dans sa sagesse et son intelligence. Et il y a plein de choses qui vont naître dans ta vie. Et qui vont te permettre justement d'être transformé. Alors, on a vu que l'argent est un simple outil. Et si tu as une autre vision de l'argent, c'est que tu te trompes. L'argent n'est pas quelque chose que tu dois chercher à tout prix. Mais l'argent, tu dois le considérer comme un outil. Si tu comprends que l'argent est un outil, tu vas avoir une certaine relation avec l'argent. Parce que rappelle-toi que nous avons une relation avec l'argent. Qui peut être bonne ou mauvaise. Dieu condamne cette mauvaise relation que nous pouvons avoir avec l'argent quand nous voulons convoiter, quand nous faisons un objet de recherche. Et c'est pour ça que nous voyons certains chrétiens qui commencent à être bénis financièrement et qui après rétrogradent. Ou commencent à s'enorgueillir et à prendre les autres de haut. À penser qu'ils sont devenus quelque chose. Tout cela, la Bible le condamne. Et la Bible condamne une mauvaise attitude vis-à-vis de la relation que nous pouvons avoir avec l'argent. L'argent n'est qu'un simple instrument pour financer le royaume de Dieu. Et t'aider dans ta vie d'une manière générale à réussir pleinement ta vie. Si ta relation avec l'argent est différente, tu te trompes. Et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de discrédit sur le message de la prospérité. Parce que les gens ne pensaient qu'aux possessions matérielles. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Je vais donner là et je vais récolter ceci. Et des gens qui étaient transformés de la mauvaise façon quand ils commençaient à prospérer. Il y a des histoires dans la Bible qui nous montrent que des gens étaient prêts à écraser d'autres personnes et sont prêts à écraser d'autres personnes pour de l'argent,
pour
des dettes. Et pourtant, l'argent est un instrument extraordinaire. Je vous dis souvent, malheureusement, dans le christianisme, on a enseigné des choses négatives. Attention, il ne faut pas avoir trop d'argent. Attention, l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Attention, les pensées, c'est pas bien. Il ne faut pas parler de la pensée dans la Bible, dans la vie chrétienne. Il y a plein de choses comme ça que les chrétiens ont eu l'habitude d'entendre. Et on n'a jamais enseigné ou très rarement enseigné le côté ultra positif que la parole de Dieu nous donne. Et posséder de l'argent, même de grandes fortunes, n'est pas mal, loin de là. Maintenant, tout dépend comment tu gères ça et comment tu vois ça. Quelle est ta vision, ta relation avec l'argent? Parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucune vision qui peut être réalisée sans argent. Dieu pourra mettre les plus grands rêves et les plus grandes visions dans votre cœur.
Et
vous pourrez dire, j'ai vraiment à cœur d'aider des personnes, j'ai vraiment à cœur telle ou telle chose.
Si
vous n'avez pas d'argent, il ne se passera rien. Vous serez enterré avec votre rêve et votre vision. Nous avons vu qu'il y a 5 piliers sur lesquels notre prospérité doit reposer. D'abord, la connaissance de la parole. On a vu que Dieu nous veut prospère. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la pauvreté. On a vu que la pauvreté, c'est l'humiliation, c'est l'avilissement de l'homme, ça le réduit à être un mendiant.
On a vu que le pauvreté,
c'est inacceptable dans la vie d'un chrétien à long terme et même au moyen terme. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants soient pauvres. Et nous avons vu que Jésus s'est fait pauvreté pour que nous puissions être enrichis. Jésus dira, heureux vous les pauvres, non pas nous les pauvres. Parce que Jésus, dans son ministère terrestre, n'a jamais été pauvre. Et nous l'avons étudié. Et nous avons vu que quand il est parlé dans 2 Corinthiens chapitre 8, qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir, que cela fait partie de ce que Jésus a réalisé à la croix. C'est ce qu'on appelle notre identification avec Christ. Ensuite, nous avons vu que la deuxième loi, c'est la loi de la semence et de la récolte. Et nous sommes sur ce terrain-là, justement, parce qu'on voit que Dieu a donné ce principe et que c'est une grande loi spirituelle de semer et de récolter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui concernent la semence et la récolte dans la parole de Dieu. Ce sont nos paroles, nos actions, nos finances. Il y a plein de choses où la Bible nous montre que c'est une semence et une récolte. Nous sommes sur ce principe en tant qu'être humain. Même la reproduction des êtres humains sont basées sur une semence et une récolte. On se nourrit sur la base de semences et de récoltes. Partout, il y a ce principe que Dieu nous a donné. Et dans les finances, c'est une grande loi pour la prospérité. Mais là, je vous ai dit, ce n'est pas la seule loi.
Parce
que malheureusement, il y a un certain nombre de prédicateurs qui ont abusé. Et j'entendais encore très récemment, il y a eu un séminaire qui a été fait dans un pays francophone il y a quelque temps. Très récemment. Et j'entendais quelqu'un qui nous a écrit sur Enseigne-moi et qui se disait qu'il était vraiment choqué. Parce qu'il avait été avec un bon cœur et on a commencé à mettre des histoires. Il faut donner 100 dollars, il y a 30 personnes qui doivent donner 100 dollars ici, etc.
Et
c'est ni plus ni moins de la manipulation. Et quand nous voulons prospérer, c'est la volonté de Dieu, nous l'avons vu, parfaite volonté de Dieu. Nous devons se mais là encore, on doit faire attention sur d'abord où est-ce qu'on sème, la façon, notre attitude pour semer, parce que sinon, cette loi de la semence et de la récolte ne marchera pas. Je vous ai montré qu'il est important de semer dans un terrain divin, une vraie œuvre de Dieu. Toute votre vie, faites ça. Parce qu'il y a des vraies œuvres de Dieu et il y a des fausses œuvres de Dieu. Il y a des œuvres que Dieu a plantées et il y a des œuvres que les hommes ont plantées. Et quand on sème nos finances dans des œuvres qui sont mortes, ça on ne récoltera rien. Et ça ne sera d'aucune utilité devant pour le royaume de Dieu et pour notre vie. Alors là où c'est très important, parce que comme j'avais fini le dernier enseignement, j'entends beaucoup de pasteurs qui se plaignent de manque de finances. La plupart du temps, si vous parlez avec un pasteur, le pasteur vous dira: ah, mais on n'a pas d'argent. Ah, c'est dur. Ah, les chrétiens ne donnent pas. Et je l'entends partout. Je l'entends ici en Afrique. Je l'ai entendu en Europe. Et très récemment, j'ai encore entendu au Canada. On me disait, par exemple, à Montréal,
il
y a beaucoup de pasteurs qui se plaignent que, en fait, dans leur église, eh bien, financièrement, ça
ne
marche pas.
Et
la plupart du temps, c'est parce que le serviteur de Dieu
soit
a une mauvaise attitude ou soit il ne sait pas comment faire pour utiliser les lois du royaume de Dieu. Parce que nous sommes l'église de Dieu. Une église qui est prospère, ça reflète la prospérité de ses chrétiens. Parce que nous donnons nos dîmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous donnons nos dîmes et nos offrandes, si chaque chrétien est prospère et de plus en plus prospère, l'église de Dieu est de plus en plus prospère. Pourquoi? Parce que l'église, c'est nous. C'est pas très compliqué. Mais apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Donc, il est évident que le serviteur de Dieu va avoir un rôle important. Et il doit avoir un comportement vis-à-vis des finances. Parce que si le serviteur de Dieu a un mauvais comportement financier vis-à-vis de ses chrétiens, les gens ne vont pas donner parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils disent: ah oui, le pasteur il demande ça, mais on ne sait pas ce qu'il fait, etc. Et c'est triste parce qu'il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui n'ont pas un bon comportement financier. Ce qui fait que les chrétiens n'ont pas envie de donner à l'église. Et comme ils ne s'aiment pas, ils ne récoltent pas et Dieu ne peut pas les bénir et les faire prospérer. Donc en français on appelle ça le serpent qui se mord la queue.
Ah, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait le fait que les gens n'appliquent pas un principe, ça les empêche de prospérer, ça empêche l'église de prospérer. Et donc tout le monde est coincé et se retrouve en dessous de la norme divine. Et ça, c'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu et d'Église. Donc, je vous rappelle, nous avions vu 1 Corinthiens chapitre 4. Et il est très important que le serviteur de Dieu ait un bon comportement. Et je vais vous dire quel comportement il doit avoir. Parce que si le serviteur de Dieu a un bon comportement, qu'il donne un bon message,
obligatoirement,
les gens vont être stimulés dans leur foi. C'est une conséquence. Rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et les gens ont besoin, vous avez besoin d'être stimulés dans votre foi.
Et
j'arrête pas d'entendre de bons témoignages à propos de gens qui ont eu des promotions ces derniers jours. Et régulièrement, c'est ce qu'on entend, et je bénis le Seigneur pour ça. Des gens qui sortent de situations difficiles ou qui pendant des années leur foi était construite et ils n'ont pas encore vu au départ pendant un certain temps ils n'ont pas vu leur percée financière et d'un seul coup pouf, promotion d'un seul coup pouf, il se passe quelque chose dans leur vie et leur vie financière est bouleversée dans le bon sens du terme. Donc dans 1 Corinthiens 4, il est dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, du reste qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Alors, quand je fais un cours à l'Institut biblique, où je parle des finances et du ministère, et j'ai une partie où j'enseigne à propos des lois du comportement, les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Je crois que nous en avions vu 3 la dernière fois. Le premier comportement qu'il doit avoir, c'est d'être honnête et irréprochable. Nous avions vu un texte dans 1 Timothée 3:3 qu'on ne va pas relire. Mais il est dit qu'il doit être désintéressé. C'est-à-dire non ami de l'argent. Quand on veut voir une église prospérer, donc des chrétiens prospérer, le serviteur de Dieu doit comprendre qu'il doit construire une relation de confiance avec ses chrétiens. La prospérité de l'église de Dieu, comme nous l'avons vu, une des grandes lois, c'est de donner pour recevoir, semer et récolter. Et le serviteur de Dieu a un rôle fondamental vis-à-vis de ses chrétiens. Il crée une relation de confiance. Vous savez, si vous avez à payer quelque chose, c'est quelque chose que vous devez. Si vous ne le payez pas, vous avez des ennuis. Mais nous avons vu que le terme « payer sa dîme » n'est pas un terme scripturaire.
Ce
n'est pas un terme néo-testamentaire, du Nouveau Testament. Nous sommes fondés sur ce que les gens vont donner généreusement de tout leur cœur. Et quand on donne des finances à une église locale, les chrétiens donneront s'ils se sentent en confiance. Donc, il y a obligatoirement une relation qui se crée entre le pasteur et sa congrégation. Si les gens voient qu'un pasteur n'est pas honnête ou qu'il fait des visites de courtoisie le 30 ou le 31 dans la maison de ses chrétiens, il va acquérir une mauvaise réputation et c'est normal. Ou si quand vous commencez à lui confier certaines choses, vous voyez que le pasteur n'est pas honnête.
Obligatoirement,
les gens vont commencer à lui dire, ah, ce pasteur-là, il faut être prudent avec lui. Mais imaginez-vous, si par exemple un pasteur a 100 personnes dans son église, et qu'il y en a 50 ou 60 qui doutent de l'honnêteté du pasteur, parce qu'ils l'ont vu faire certaines choses qui n'étaient pas claires, les gens ne vont pas donner à l'église. Donc ils ne vont pas donner au Seigneur. Donc ils ne vont pas donner au royaume de Dieu. Donc ils ne sèmeront pas. Et alors, il y a des gens qui disent, oui, moi je veux donner ailleurs, je veux donner pour les veuves et les orphelins. Oui, je voudrais donner à une autre église. Non, le principe divin, c'est de donner là où tu es nourri.
Et
si le pasteur n'a pas un bon comportement, ça n'ira pas. Ensuite, il doit être intègre. Et l'intégrité, je vous le rappelle, c'est je fais ce que je dis. Et ça, c'est très important. Un pasteur doit être intègre. Il ne doit pas faire des déclarations démesurées. Et mettre en danger son église. Ou dire, on fait une offrande pour un synthétiseur, par exemple. Et vous
ne
voyez jamais le synthétiseur. Et il fait ça deux fois, trois fois. Ça, c'est un manque d'intégrité. Ensuite, il doit donner un message équilibré et stable sur les finances. Les gens ont besoin d'être construits dans les finances. Petit à petit, comme on construit une maison. Dans chacun des domaines de notre vie, nous avons besoin d'être construits par la parole de Dieu. Ça prend du temps. Mais le pasteur, le serviteur de Dieu doit régulièrement infuser de la connaissance et de l'enseignement équilibré. Afin que les brebis puissent connaître la parole. Et ne pas avoir quelque chose qui est ce qu'on appelle déséquilibré. C'est-à-dire commencer à enseigner des trucs un peu bizarres sur les finances. Non, Dieu est un Dieu de prospérité. Mais Dieu n'est pas dans les petits trucs où un jour on va donner ça et demain tout va changer. Non, il y a un temps de semence et un temps de récolte. Rappelez-vous qu'entre le moment où on sème et le moment où on récolte, il y a un laps de temps important. Ensuite, quatrième chose, il doit se garder de manipuler les brebis. Certaines personnes utilisent leur position de leader pour faire des pressions sur les chrétiens pour soutirer de l'argent. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est terrible. Et si quelqu'un veut enterrer son ministère, qu'il utilise ce genre de truc. On ne donne pas par sentiment, on donne par conviction. On donne par obéissance et par amour. Et les trucs qui font vibrer la corde sentimentale. Ah, si l'église n'a pas ça, alors on ne pourra plus faire le culte demain. Ah, il faut donner maintenant parce que Dieu me dit qu'il y a 10 personnes qui doivent donner ça. Sinon, il va se passer un malheur dans leur vie. Ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ensuite, il doit éviter aussi toute doctrine à la mode. Il y a des fois, vous savez, des serviteurs de Dieu, ils entendent que quelqu'un a fait ça dans une église et d'un seul coup, les gens... L'église a été bénie d'une certaine façon.
Et puis,
il entend que quelqu'un d'autre a fait ça et il a été béni aussi. Alors, d'un seul coup, il va récupérer ce morceau de doctrine, entre guillemets, ou certaines façons de faire et il va essayer de les appliquer à son église. Ça, c'est dangereux. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça, il ne doit pas faire ça.
w'Imana.
Ensuite, il doit mettre un système transparent de gestion.
Ikindi nacho akwiye gushiraho uburyo bwo kujera amafaranga mu buryo butomoye.
Parce que ça c'est important.
Ikindi nacho ni kintu gihambaye.
Vous savez, les gens qui donnent beaucoup, en général, ce sont des gens qui ont de bonnes positions dans la société.
Kenshi abantu batanga kenshi usanga ari abantu bafise ikibanza gikomeye mu gihugu.
Et les gens qui donnent beaucoup en général, c'est ceux qui représentent le plus au niveau des recettes d'une église.
Kandi iyo abantu batanga cha menshi usanga ari abantu baserukira igice kinini cy'amafaranga yatanzwe mu ishengero.
Mais les gens qui donnent beaucoup, comme je vous le disais, ont souvent de bons postes, c'est des gens qui sont soit dans des organisations, soit dans des sociétés où il y a de la gestion qui est faite.
Usanga rero abo nabo ari abantu bazi ingene bajera aho bakorera aho babaye.
Et un serviteur de Dieu qui commence à tout spiritualiser, à laisser des choses très opaques au niveau des finances, mettra le doute chez ces chrétiens.
Urumva rero iyo umukozi w'Imana atanguye kubishyira muri mpwe mu byose, agatangura gushyira agapfungu kenshi muri ibyo bintu biriko birakoreka, usanga bigenda nabi.
Il y a une question qui ressort chez beaucoup de pasteurs, enfin de chez des chrétiens qui parlent à propos de pasteurs.
Urumva cyagumaho ibibazo byinshi mu bakristo batari bake bavuga ku bijyanye n'abungeri
babo. Quand le pasteur ne fait pas des choses, je dirais qu'il n'a pas une gestion transparente.
Iyo atari kwakora ibintu mu buryo bukwiriye mu buryo buboneka neza kuri bose.
La question chez les chrétiens c'est qu'est-ce que le pasteur fait avec l'argent?
Urumva kibazo kicakizana imbega pasteur akozi k'amafaranga.
Et ça, c'est une question que le diable utilise très fortement. Et un pasteur doit être clair. Une église devrait être beaucoup plus, je dirais, il devrait y avoir beaucoup plus de comptabilité, de gestion dans une église que n'importe où ailleurs. Parce que nous sommes l'église de Dieu et Dieu est un Dieu d'ordre. Je le dis souvent, Dieu bénit une bonne gestion. Dieu n'aime pas la mauvaise gestion.
Et
vous savez, la mauvaise gestion, ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un va voler quelque part. Ça veut dire que des fois, les choses ne sont pas faites correctement.
Et
un bon système de gestion, comptable, des bilans, etc., c'est indispensable pour une église. Parce que les chrétiens ont besoin d'entendre, de savoir en gros qu'est-ce qui se passe dans l'église. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici à El Shaddai, on fait une fois par an un bilan avec les grandes lignes de ce qui se passe. Pour que les gens sachent en gros qu'est-ce qui se passe et qu'ils sachent que les choses sont gérées. Septième chose, c'est qu'il doit être un bon gestionnaire. Alors, un bon gestionnaire, ça implique des choses importantes. Ça implique la gestion de priorités. Parce qu'un pasteur, au bout de quelques années, on lui dira, pasteur, quand est-ce qu'on va acheter notre bâtiment? Tiens, ça c'est une question courante. Pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les enfants? Pasteur, les instruments de musique, ils sont vieux. Alors là, si ça ne marche pas, on est dérangé pendant le culte.
Vous voyez,
il y a plein de choses que les gens demandent. Nous, les pasteurs, on a mille et une questions que les gens nous posent. Chacun leur fait une réflexion, il y a une question à droite et à gauche.
Et
le pasteur doit savoir comment gérer les choses. Quelles sont les priorités, etc., etc. Par exemple, quand une église achète une voiture et qu'elle a du mal à payer son loyer, on va entendre quelque chose.
Ça
veut dire que le pasteur n'est pas un bon gestionnaire. Il ne sait pas gérer ses priorités. La priorité, ce n'est pas une voiture au départ, quand on démarre d'une église ou quand on a quelques années. La priorité, c'est qu'on paye correctement le loyer. C'est qu'on paye ses charges. C'est qu'on n'entende pas de la part d'une église ou d'une autre, ah, il paraît que ces gens-là ne payent pas.
Parce que
ça met une mauvaise réputation.
Ça
salit le nom du Seigneur.
Ça
salit l'Église.
Ça
salit le serviteur de Dieu. Donc il doit être un bon
gestionnaire.
Ensuite, il doit être un bon navigateur dans la vision.
Et
savoir bien naviguer, ça fait partie du leadership. Et un pasteur, il va courir un marathon. Il ne court pas un sprint. Et quand vous courez un marathon, vous devez gérer votre course. Sur le long terme. Et un serviteur de Dieu doit savoir bien naviguer selon les étapes de la vision. Il doit voir les choses étape après étape. S'il ne fait pas ou s'il loupe certaines étapes, l'Église en ressentira des conséquences. Donc il faut absolument qu'il apprenne à faire attention à bien naviguer dans la vie financière pour réaliser étape après étape la vision que le Seigneur a donnée. Ensuite, la neuvième chose, c'est qu'il ne doit pas toucher directement à l'argent.
Il doit
déléguer.
Il y a
beaucoup de pasteurs qui ont une mauvaise réputation
parce
qu'ils sont là en train de compter la dîme et les
offrandes. Ils
acceptent des enveloppes de la part de chrétiens pour l'Église. Et ça, c'est pas bon pour un pasteur. Un pasteur, on ne doit pas le voir avec des enveloppes où il y a de l'argent dedans. Sinon, ça peut le mettre sous un soupçon qui n'est pas bon. Il faut qu'il dirige les gens vers l'administration, vers la comptabilité de l'Église. Ensuite, il doit avoir des mains libres pour les décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est pas facile pour un pasteur d'avoir ces choses-là. C'est-à-dire que le pasteur ne doit pas être assujetti à un groupe de gens à qui il doit demander la permission pour la couleur rouge du rideau. Que s'il y a un microphone en panne, il faut faire une commission ou un comité.
S'il
y a deux prises de courant à changer, il faut se réunir en comité. Sinon, c'est une catastrophe.
Et
il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Où tout, de A jusqu'à Z, la moindre dépense est décidée en comité. Ces églises-là n'avancent pas. Parce qu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans une théocratie. Et il faut que le serviteur de Dieu s'arrange. Étant transparent, ayant toutes les qualités que nous avons déjà vues. Parce que ça ne marchera pas sans avoir les qualités que nous avons vues. Et en fait, il doit s'entourer de bonnes personnes. Non pas pour décider les petites choses, mais des personnes qui comprennent leur rôle, de l'aider, de le conseiller, non pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, la onzième chose, il doit être entouré de personnes qu'il a choisies et qui sont aussi désintéressées. Parce qu'un pasteur ne peut pas travailler seul. Il y a un groupe de gens qui doivent être ses conseillers.
Il
doit pouvoir consulter en cas de besoin. D'avoir un certain nombre de personnes qu'il peut appeler et à qui il dit, ben voilà, on va faire ça dans l'église. J'aurais besoin que tu prévoies ça, que tu budgétises ça, etc. Et les personnes viennent pour l'aider sous son leadership. Non pas des gens qui sont là,
et
qui essayent de profiter de l'Église pour avoir certaines positions, pour soutirer de l'argent.
Donc,
il est très important qu'ils choisissent les bonnes personnes. Ensuite, le deuxième comportement financier qui est important aussi, c'est qu'il doit éviter de mélanger ses affaires familiales avec les affaires de l'Église concernant les finances. Parce que ça aussi, il y a certains pasteurs, on ne sait pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire comment ils utilisent l'argent. Ils utilisent l'argent un peu n'importe comment, l'argent de l'Église, pour des besoins personnels qui ne sont pas bien définis. Maintenant, l'Église doit financer le pasteur et sa famille. Parce que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais il doit faire attention que les choses soient claires. Parce que si on n'est pas clair, c'est là où cela crée énormément de problèmes. Et c'est normal. Le pasteur ne peut pas venir comme ça et décider ce qu'il veut pour ses besoins personnels dans la caisse de l'Église. S'il fait ça, il aura bien des problèmes. Il va se retrouver avec beaucoup de difficultés dans son ministère. Alors, concernant cette parenthèse que je voulais faire, c'est très important parce que je vous rappelle que chaque personne doit apprendre à semer dans le royaume de Dieu. Mais si on trouve un bon terrain, il faut aussi, si on veut s'épanouir, si on veut prospérer, il faut qu'on se sente en confiance.
Je vois
beaucoup de serviteurs de Dieu qui échouent dans le domaine des finances. Et le problème, c'est qu'ils échouent et c'est le reflet de l'échec qu'ils amènent chez ces chrétiens. Parce que si Dieu a donné un ministère à quelqu'un et que cette personne échoue financièrement par rapport à la vision que le Seigneur lui a donnée, ceci montre que le leader ne s'est pas pris correctement, parce que Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Et si lui échoue, ça veut dire que sa congrégation a échoué. Ça veut dire que financièrement, ces chrétiens ne sont pas prospères. Ou alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, ça peut être parce qu'il ne sait pas transmettre le message correctement. Ou qu'il n'a pas le bon comportement financier selon les règles du royaume de Dieu. Donc finalement, ces chrétiens ont du mal avec les finances. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'on ne leur explique pas, ils ne lui expliquent pas. Ils ne les aident pas à comprendre les lois du royaume de Dieu. Ils ne sont pas inspirés eux-mêmes à ouvrir des entreprises. Ils ne sont pas inspirés à prospérer selon le cœur de Dieu. Ils ne sont pas inspirés à donner. Ils ne sont pas inspirés à réaliser la vision du royaume. Et s'ils échouent, c'est en fait le serviteur de Dieu a une grande responsabilité dans
ce domaine-là.
Si un serviteur de Dieu se plaint de manque de finances, c'est parce qu'il n'a pas su faire selon la parole de Dieu et selon le royaume de Dieu.
Et
ça c'est vraiment un problème que je vois chez beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir la troisième loi, c'est la loi de la foi. Vous pouvez avoir la connaissance de la parole, savoir que Jésus vous a racheté la pauvreté, savoir qu'il vous veut prospère, savoir qu'il a le meilleur pour vous. Vous pouvez donner dans un bon terrain, vous pouvez arroser votre semence, vous pouvez faire plein de choses selon la parole de Dieu. Mais il y a un troisième principe qu'il va falloir utiliser, c'est la foi. Et la foi, c'est un troisième pilier sur lequel notre prospérité est fondée. Parce qu'il va falloir faire certaines choses si vous voulez prospérer. La foi va être un de ses piliers.
Ukwizera kuza kuba muri ivyo bintu muri izo nkingi.
Absolument indispensable.
Izo nkingi zikenewe cyane.
Vous allez vous retrouver dans la vie très souvent avec des obstacles. Tout dépend d'où vous partez.
Kenshi mu buzima urisanga imbere y'imitego ibisika byose bivana naho uvuye.
Si quelqu'un est dans une extrême pauvreté,
hari nk'umuntu ari mu bukene bwinshi cyane.
S'il veut prospérer, il a des grands défis devant lui. Mais tout est possible à Dieu. Mais Dieu a besoin d'un canal. C'est nous. Et il va falloir apprendre à savoir ce qu'est la foi et motiver notre foi. Un homme ne peut pas changer s'il ne change pas d'abord sa mentalité et ses croyances. Et ça, c'est fondamental. Un homme est ce qu'il pense. C'est un proverbe qui nous dit ça. C'est la façon dont tu penses, tes façons de penser qui vont motiver tes croyances, qui vont motiver tes actions. Et les actions que tu vas faire vont t'amener dans une certaine direction et c'est ce qui forme ta destinée. Donc, c'est un principe fondamental de la vie chrétienne que je vous enseigne ici. Donc tout va d'abord commencer par tes façons de penser, tes mentalités et comment tu vas avoir une certaine vision des choses dans ta vie. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vision, si ce n'est seulement de dire à Dieu, Dieu, tu vois, j'ai beaucoup de problèmes, je te prie, et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me punis?
Enfin,
tous les trucs bizarres, négatifs, religieux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont là en train de se plaindre que les choses ne vont pas, que ça ne marche pas, qu'ils ont essayé mais ça ne va pas. Et ça, ça commence par la pensée. Si ta pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, tes situations ne changeront jamais. Parce que tu ne pourras jamais recevoir la foi dont tu as besoin. Et à partir de ce moment-là, tu ne pourras jamais transformer tes situations. Ce que je vous enseigne ici, c'est fondamental. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois avoir une vision. Une vision de quelque chose. Et la foi est un ingrédient indispensable si tu veux prospérer. La foi va t'amener à remplir des objectifs. La foi va t'amener à parler sur tes situations. Alors que ce sont les pires situations, les choses les pires que tu es en train de vivre, mais tu vas parler la parole de Dieu. Et parce que tu appliques les principes de la parole, du royaume, alors tes situations vont commencer à être transformées, mais ça va être le travail de ta foi. Vous savez, beaucoup d'églises font des commentaires à propos de ce qu'on a acheté ici, ce bâtiment.
Mais
ça, c'est le travail, entre autres, de la foi. C'est le travail d'une vision. C'est le travail de voir les choses à l'avance. Si vous voulez prospérer, obligatoirement, vous devez avoir la vision de la prospérité. Si vous êtes environné de pensées négatives de pauvreté, de pensées négatives de manque, de pensées négatives de stérilité financière, de pensées négatives d'échec, vous ne pourrez jamais prospérer. Vous pourrez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous pourrez donner au Seigneur votre dîme. Vous ne prospérerez pas. Parce que vous laissez votre semence, vous la plantez dans un terrain, mais vous ne l'arrosez pas. La foi va être un arrosage de notre semence. Et il va falloir apprendre à faire ces choses. Et la foi ne va pas être de déclarer la situation telle qu'elle est.
kwizera ntikutuma watura ibintu
kubona. La foi va être de parler une situation.
Ukwizera uvuga ikintu.
Qui est conforme à une vision.
Gihwanye n'ico ubona n'ico wereka.
Et cette vision va être formée par la stimulation de la parole de Dieu.
Kugashigwaho no gusomborozwa n'ijambo ry'Imana.
Si vous ne faites pas ça dans votre vie,
vous
n'avancerez jamais. Vous vous plaindrez toujours.
Il n'y
a rien qui va se passer.
Il n'y
aura pas de changement. Vous resterez tel quel. Il va se passer des événements constamment négatifs dans votre vie. Vous allez vous faire voler, dépouiller. Vous allez avoir tous les problèmes possibles et imaginables. Et à chaque fois, vous allez dire, ah, je m'en doutais. Et quand je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de mauvais qui allait m'arriver, qu'il soit fait selon ta foi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas une chose. Nous sommes dans un principe du double royaume. Il y a un monde invisible qui régit un monde visible. Et si tu apprends à utiliser le royaume de Dieu, tu soumettras tes circonstances. C'est un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain qu'on peut apprendre d'un seul coup. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre et que tu mets en pratique régulièrement. Et que c'est comme une roue que tu entraînes. Une roue, par exemple, que tu donnes une force sur une roue, elle commence à tourner. Et au début, vous savez, si vous avez une grande roue, et que vous voulez commencer à la mettre en mouvement, il va falloir une force très importante tout au départ. Et vous allez donner une grande impulsion, la roue va commencer à tourner. Mais si vous arrêtez et que vous la regardez la roue tourner, la roue va commencer à s'élancer, elle va commencer à faire quelques tours, puis elle va se ralentir et elle va s'arrêter. Si vous voulez que la roue continue à tourner, il va falloir que vous donniez un mouvement, que vous entreteniez ce qu'on appelle le mouvement. Et à ce moment-là, la roue va continuer à tourner. Et avec les lois du royaume de Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire une fois et puis dire, voilà, ah, je vais donner au Seigneur une fois et tout va aller bien.
Ah,
je vais parler la foi une seule fois et puis tout va bien aller. Aujourd'hui, c'est une réunion où j'ai bien loué et adoré Dieu, je sens sa présence, donc je vais déclarer ma foi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça, c'est des petits trucs qui ne marchent pas. C'est un style de vie. Une compréhension du royaume. Et ça, c'est quelque chose, c'est une roue que tu vas entretenir, entre guillemets. Des lois spirituelles que tu vas mettre en action régulièrement dans ta vie. Parce que si tu ne le fais pas,
et
bien, tu seras déçu. Comme beaucoup de chrétiens déçus et frustrés qui ne comprennent pas qu'il va falloir qu'ils poussent contre leurs circonstances de manière régulière jusqu'à temps que ces circonstances se courbent. Si tu as été éduqué dans les mentalités de mon grand-père était pauvre, mon père était pauvre, je suis pauvre, mes enfants seront pauvres, mes petits-enfants seront pauvres.
Ou
dans cette vie, eh bien, j'ai pas eu de parents, il y a personne qui a pu me donner un héritage. Donc quand je vois mon voisin ou mon collègue de travail ou celui qui va à l'école avec moi, lui, il a eu un bon départ. Moi, apparemment, j'ai pas eu de bon départ. Donc, ce sont mes circonstances. Je pense que ma vie sera toujours comme ça. Ça commence là. Il va falloir que tu changes complètement cette façon de penser. Parce que tu ne pourras jamais stimuler ta foi à partir du moment où ta pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça, c'est tout un travail. C'est le travail de ta mentalité. Tu dois travailler ta mentalité. Parce que de ta mentalité va déterminer tes comportements.
kuko uburyo wiyumvira nibwo buzoshiraho uburyo ukora uburyo ubaho.
Et dans les finances, il y a un comportement à avoir.
Mu mafaranga rero hariho inyifato dukwiye kugira.
Donner, semer, c'est un comportement.
Gutanga kubiba ni inyifato n'ubuzima.
Ne pas maltraiter les autres à cause d'argent. Dans la relation avec l'argent, c'est un comportement. Utiliser l'argent comme un outil pour le royaume de Dieu, c'est un comportement. Et ce comportement, c'est d'abord là-dedans. C'est d'abord tes mentalités. Qu'est-ce que tu vois devant toi financièrement? Rien. Je prie, on verra bien si Dieu va faire quelque chose. Si c'est ça tes mentalités, tu n'auras aucune foi. Il n'y a rien qui va se passer.
Il n'y
a strictement rien qui va se passer. Il va falloir que tu commences à t'imprégner de la parole de Dieu. Que tu étudies ce livre ici. D'hommes et de femmes qui sont partis avec rien et qui ont su pleinement réussir, qui ont su rentrer dans la vision de leur destinée. Et ça va te demander de mettre ta pensée sur la parole, donc de passer du temps avec la parole, de demander à Dieu: Seigneur, je veux être rempli de ces choses. Il faut que vous compreniez quelque chose. Avec Dieu, rien ne se passe par hasard. Rien ne se passe par hasard. Tu verras la gloire de Dieu si tu commences à méditer, à passer du temps, à méditer sa parole. C'est la première étape, et c'est l'étape qui, je dirais, est la moins spectaculaire, parce que extérieurement il ne se passera rien, parce que méditer, tout se passe à l'intérieur de toi. La méditation, c'est quelque chose d'interne. Ça ne se voit pas à l'extérieur, ça n'a aucun effet direct. Le temps que tu vas passer avec la parole de Dieu et à créer ta vision, à créer la destinée que Dieu a pour toi, c'est des heures et des heures et des heures. Des heures et des heures et des heures et des heures. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui médite beaucoup sur le futur. Je vois les choses devant. Je me mets des objectifs devant. Parce que je sais que le fait de méditer, conformément à la parole de Dieu, conformément à ma destinée, cela stimule ma foi. Ça stimule ma foi. Par contre, c'est quelque chose qui est constant de plus en plus, et de plus en plus fort et de plus en plus grand. Parce que tu ne pourras rien réaliser sans d'abord passer du temps à méditer, à faire sortir d'abord de ta pensée les choses qui sont contraires à la parole de Dieu.
Je n'y
arriverai jamais. Je prie, mais il ne se passe rien. Ça, c'est ce genre de parole, c'est le fruit des méditations. Nous sommes tous sur le même modèle. Nous avons une âme, nous avons un système de pensée. Ce système de pensée, le diable l'utilise pour détruire la vie des gens. Tu as un instrument merveilleux entre tes deux oreilles, c'est la capacité de penser, d'imaginer, de méditer sur les choses de Dieu. Mais il faut que tu saches l'utiliser. Il faut que tu saches stimuler ta vision. Il faut que tu aies une vision de vouloir réaliser un certain nombre de choses. Ne sois pas comme la grande majorité des chrétiens de ce monde qui sont assis et qui attendent le ciel. tu as un objectif, tu as une destinée sur cette terre. Tu as une destinée d'amener des âmes à
Christ.
Tu as une destinée de créer une bonne famille. Tu
as
une destinée d'aller dans les finances très hautes.
Tu as
une destinée particulière où Dieu veut des choses particulières dans ta vie.
Et
le choix t'appartient. Ce que tu es à l'extérieur est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Si tu comprends rien que ça ce soir, ta vie peut être complètement changée. Si tu apprends à mettre à l'intérieur de toi ce qu'il y a dans cette
vie,
c'est ce qui va stimuler tes visions,
stimuler
tes objectifs,
stimuler
ce que tu veux faire
dans
le Seigneur.
Ce qui
fait que quand tu pries, tu
n'es
pas envahi des pensées négatives d'échec et de pourriture et de tout ce que tu veux.
Mais
la foi qui est en toi commence à se lever.
Et
cette foi, ça va être quelque chose d'indispensable. Mais tu dois la stimuler. Quel est ton objectif? Tiens, reste une question. Quel est ton objectif en 2011 financièrement? Où est-ce que tu vas aller? Quelle promotion tu vas avoir? Ben, j'y pense pas vraiment. Tu n'y penses pas vraiment? Tu vois, ça a déjà commencé ici. J'y pense pas vraiment. Je te conseille fortement d'y penser. Mets-toi des objectifs. Si
tu es
vraiment dans de très grosses difficultés financières, mets-toi juste une marche au-dessus. Commence pas à dire, parce que tu as un salaire de 50 000 francs, de toute façon, avant la fin 2011, je crois pour un salaire de 2 millions.
Non,
commence avec une marche déjà. Et l'année d'après, tu mettras une marche beaucoup plus haute. Et l'année encore d'après, tu mettras une marche beaucoup plus haute. Et tu verras qu'en quelques années, tu auras fait un chemin qui va même t'étonner. Parce que Dieu va t'amener. Il va répondre à des prières, comme le dit Éphésiens, au-delà de ce que nous pensons ou même demandons. Mais d'abord, il faut que tu sois stimulé dans ta foi. Et pour être stimulé dans ta foi, tu dois être stimulé dans tes objectifs.
Tu dois
commencer à te voir différemment. La foi te donne de te voir dans le futur. C'est ça que j'aime avec la foi. Je trouve que la foi est un instrument absolument extraordinaire qui nous donne de nous voir dans une condition future telle que Dieu veut nous voir dans l'étape suivante.
Et
financièrement, ça doit être ton cas. Si tu es tout le temps en train de te voir dans la pauvreté, dans le manque, sur un matelas qui est tout sale, dans une pièce qui est toute sale, mais c'est ce que tu vas continuer à être. Et pourtant, tu es fils de roi. Tu es fille de roi. Donc, il va falloir que tu comprennes que ça commence à temps. Ceux qui ont réalisé les plus grandes choses dans ce monde, ils ont d'abord travaillé là-dedans. Mais eux, la plupart d'entre eux ont eu des vues païennes. C'est-à-dire que ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Toi, tu dois utiliser ce que tu as ici
pour
la gloire de ton Seigneur. Tu ne pourras jamais prospérer avec une mentalité négative. Parce que tu rencontreras des obstacles qui te diront, mais non, regarde tes circonstances. Regarde-toi. Et tu vas te mépriser. Tu vas te mépriser toi-même. Tu vas te dévaloriser toi-même. Vous voyez, il y a les deux aspects ici. Il y a le chrétien qui se dévalorise complètement avec ses pensées négatives, ses mentalités négatives. Et il y a le chrétien qui est comme un petit coq là. Moi. Qui est tout à fait orgueilleux. Les deux sont des mauvaises mentalités. Mais il existe la bonne mentalité de Dieu. La bonne mentalité de Dieu. Et c'est cela que tu dois acquérir. Donc utilise ta pensée pour avoir des visions, d'aller plus loin dans ton imagination. Tu dois t'environner de ces choses. Tu ne pourras jamais prospérer avec une mentalité négative. Une mentalité négative te ramènera toujours vers le bas, te ramènera vers le manque, te dira toujours c'est impossible, te dira oui j'ai prié mais ça ne marche pas, oui j'ai donné mais ça ne marche pas, oui toutes ces histoires ça ne marche pas. Et le diable arrivera à te convaincre que ce n'est pas vrai. Et tu seras comme Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant tu connaîtras la parole de Dieu, mais elle n'aura aucun effet dans ta vie parce que ta mentalité n'a pas été changée, parce que tu n'as pas travaillé à méditer cette parole, à te voir différemment. Le changement commence alors que tu commences à te voir différemment. Si tu te vois toujours dans le manque et les difficultés financières, oui mais le pays dans lequel nous sommes, oui mais la situation économique, oui mais c'est exactement ce que les espions disaient quand ils ont exploré le territoire d'Israël.
C'est vrai,
tout ça c'est beau ce que vous nous racontez, mais il y a des géants, mais il y a des obstacles, on va se faire bouffer, on va disparaître, on va nous écraser. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ça c'était la vie. Nous étions à leurs yeux. Là-dedans, si tu ne veux pas changer ce qu'il y a là-dedans, tu ne pourras pas prospérer, tu ne pourras pas avoir un changement dans ta situation. Donc il va falloir que tu commences à changer tes mentalités. Et pour ça demande du temps, parce que ces mentalités ce sont des programmes que tu as dans la tête. Et quand tu acceptes l'inacceptable, et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des situations financières inacceptables. Et si tu veux que ça change, il va falloir que tu déclares la guerre à des situations inacceptables. Et tu vas découvrir que ça commence dans ta pensée. Et si tu ne le fais pas, c'est toi qui perdras la guerre. Parce que toutes ces situations inacceptables continueront à t'humilier. La pauvreté n'est pas de Dieu parce que c'est humiliant pour un chrétien. C'est humiliant pour un chrétien. D'être là en train de mendier son pain, de mendier un endroit pour dormir. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça,
frères.
Mais il nous appelle à changer nos situations. Et je vous en dirai plus sur la foi la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.